On va parler de la Fed indirectement, parce que bon, on a regardé quand même les chiffres, alors on a eu les chiffres de la semaine dernière sur l'emploi, on voit que l'économie américaine, on va en parler tout de suite, elle résiste, hein, l'Amérique c'est vraiment l'Amérique, l'emploi...
Jonathan, c'est pas mal.
Ah quand même, l'emploi se dégrade en Europe, il se dégrade en France, et puis aux États-Unis ça va plutôt pas mal, quel est le secret de leur performance? Est-ce que c'est uniquement ce qu'on entend beaucoup quand même, hein, et on va en reparler tout à l'heure avec SpaceX, est-ce que c'est la bulle IA et rien que ça?
Non, parce que l'IA, c'est un tiers de la croissance.
On dit deux tiers. C'est-à-dire, on dit un tiers par l'investissement direct et un tiers par l'effet richesse.
Oui, il y a l'effet richesse. Mais c'est là où c'est intéressant, parce que l'effet richesse, ça fait que le taux d'épargne des ménages américains, aujourd'hui, il est à 2,6% du revenu disponible brut. Et c'est au plus bas depuis 2008. On était à 3,6% l'année dernière. Alors qu'en Europe, on n'a pas cet effet de richesse qui nous pousse à consommer. Donc effectivement, la résilience de la consommation américaine aujourd'hui est liée, mais il ne faut pas oublier qu'avec une inflation au-dessus de 3, maintenant la croissance des salaires, elle est négative. Et on a un niveau d'épargne qui est au plus bas. Donc effectivement, il faut que tout cet effet de richesse y tienne pour que ça continue. Parce que l'emploi
risque de se détériorer. Qu'est-ce qui alimente cette machine, en fait? Après, on dit c'est l'IA, on dit c'est, public, 10 pour, le c'est les 10% des ménages les plus riches.
Ils ont quand même 1% du PIB de plus de déficit public. Donc en fait, ils ne font pas de l'austérité. C'est une politique budgétaire accommodante.
C'est ça qui booste la...
Effectivement... Il y a les trois piliers, c'est-à-dire vous avez quand même le pilier technologique, et on voit bien, et on avait eu la même chose au moment d'Internet, c'est qu'on voyait bien finalement que les pays qui en tiraient le plus de bénéfices sur la croissance, c'était à la fois les pays producteurs et utilisateurs. Rappelez-vous, Internet, il y avait la moitié des gains qui venaient de la Silicon Valley et l'autre moitié des gains qui venaient essentiellement de l'utilisation d'Internet dans deux grands secteurs qui étaient la distribution et la finance. Ça, c'était vraiment... Donc là, aujourd'hui, ils sont encore producteurs et utilisateurs. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment se transforme ce qui reste quand même, ce que moi j'appelle l'éternelle économie émergente, qui est l'effet de richesse, bien sûr, ça joue aussi, et trois, effectivement, la politique budgétaire qui est quand même extrêmement stimulante. Le seul secteur qui va pas très bien aujourd'hui aux États-Unis, c'est l'immobilier résidentiel.
Toujours.
Qui est vraiment pas bien. Et puis, tous ces bons chiffres, n'oublions jamais qu'aux États-Unis, la moyenne cache des faiblesses liées aux énormes écarts, en fait, de situation entre les plus riches, les plus pauvres. Quand vous voyez que vous remplissez quand même, enfin, je suis désolé, vous remplissez le Madison Square Garden pour un match de basket avec des places à 15 000 $, je sais pas si en France vous remplissez beaucoup de stades avec des places à 15 000 €. Voilà.
Et à côté de ça,
vous avez des niveaux des poches de pauvreté, de précarité, etc. Donc oui, ça, cet écart, ces écarts aux moyennes, c'est une des faiblesses de l'économie américaine, mais c'est une économie résiliente, effectivement, qui a des moteurs de croissance aujourd'hui.
Le crédit repart.
Éric.
Non, mais il y a deux effets. Il y a l'effet de richesse dont on parlait, 31% de hausse sur le Nasdaq en un an. Évidemment, les Américains s'enrichissent. Et puis, il y a les énormes capex des grosses boîtes américaines, des GAFAM, plus de 700 milliards cette année. Donc, soutient l'économie. On a de plus en plus une économie en K. Et il ne faudrait pas que les marchés américains déraillent, parce que moi, je pense que dans ces cas-là, on pourrait franchement glisser assez vite dans une croissance zéro, voire une récession, parce que tout est lié à l'IA pour l'instant. J'ai rarement.
Non, c'est pas ce que dit.
Mais moi, c'est ce que je pense.
C'est pas ce que dit Anna.
La consommation des ménages trixos insus, c'est un peu moyen, puisque le pouvoir d'achat des ménages en un an a baissé de 0,6%. Donc ce qui tire, c'est l'investissement et la consommation des gens riches. Si ce moteur se grippe avec une chute des marchés, je pense qu'il y aura un gros pet sur l'économie américaine.
Non, mais il y a quand même 60% des ménages américains qui détiennent des actions.
Oui, c'est ça. C'est l'effet richesse, le fameux effet richesse.
Juste, je vais mettre un bémol sur l'emploi, parce qu'on s'est tous emballés sur les 177 000 créations d'emplois.
Et les révisions des mois précédents,
c'était pas mal. Hein. Mais la réalité sur le dernier chiffre de l'emploi, en gros, il y en a 60 000 qui sont sur l'hospitality, qui est dû aussi à des embauches sur la Coupe du Monde. Il y a 50 000 qui sont sur des emplois gouvernementaux, locaux. Et finalement, lorsqu'on regarde la part industrielle et la finance, moins 22 000 sur la partie finance. Donc,
vous nous dites quoi? Vous nous dites qu'en fait, c'est un écran de fumée et que l'économie n'est pas... Mais les chiffres de croissance sont pas mal.
Les chiffres sont de croissance, mais effectivement, il y a l'investissement qui est là aussi pour soutenir tout ça. Mais attention de ne pas présumer de ce qui va se passer sur l'emploi. Il y a un effet de saisonnalité qui est présent, qui a impacté considérablement ces chiffres-là. On verra à la sortie de l'été si on est sur la même dynamique.
La dépense moyenne estimée par touriste qui va aller assister à la Coupe du Monde, c'est quand même 5 000 $. Donc ça fait quand même un effet d'entraînement.
Je vois pas que c'est élevé par rapport aux autres mondiaux.
Ah oui, c'est beaucoup. C'est, ouais. beaucoup, c'est beaucoup.
Parce que
c'est
les beaucoup, places ont été multipliées par deux par rapport à il y a 4 ans.
Et donc ça aussi, ça va avoir.
Ça va alimenter la machine.
Bien sûr. Et puis je voulais revenir sur la tendance de l'emploi qui, effectivement, sur les trois derniers. Donc c'est vrai que mai, c'était pas encourageant, mais les trois derniers mois, ce que le garde a fait, c'est pas mal. Donc ça va retarder cette hausse de taux de la Fed. Si le détroit d'Ormuz est encore fermé après septembre et que l'inflation continue d'accélérer, bah là, les marchés commencent déjà à pricer une hausse en décembre.
Oui. Et vous pricez ça aussi ?
Oui, mais en septembre, un peu plus tôt.
Vous pensez qu'il y aura une hausse des taux ?
Une hausse, oui.
Eh ben, dis donc.